ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie.
Pour écouter Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini et Tutti Quanti, c'est Tutti Quanti. Pour écouter des Adagio, des Allegro, des Moderato et Tutti Quanti, c'est Tutti Quanti, votre magazine consacré à la musique classique de Radio MDM. Nous continuons à décliner l'abécédaire de la musique classique. Nous sommes aujourd'hui à la lettre C. C comme charme, C comme compétence, C comme charisme, C comme simplicité, autrement dit les caractéristiques de notre technicien d'aujourd'hui, Pierre Alain. On va commencer par un mot compliqué aujourd'hui, le mot contrepoint. Qu'est-ce que c'est le contrepoint ? C'est une technique d'écriture. À partir du moment où on décide de mettre plusieurs sons ensemble, autrement dit de faire de la polyphonie, il y a deux façons d'envisager de faire ces sons ensemble. Soit on considère que les notes se superposent les unes les autres et ça forme des accords, et on regarde ce que sont ces enchaînements d'accords, si ils sont jolis, efficaces ou pas. Et ça, c'est la technique de l'harmonie, c'est la science de l'harmonie. Et puis, il y a une autre technique qui est de considérer des sons comme une sorte de superposition de mélodies et non pas de sons isolés. Donc, autant les accords sont écrits avec des notes les unes au-dessus des autres, c'est une conception un peu verticale de la musique. La conception qui décide de superposer des mélodies, elle est plus horizontale. Et c'est cette conception-là qu'on appelle le contrepoint, puisqu'on construit donc plusieurs mélodies les unes sur les autres, une note contre une autre, un point contre un point, le contrepoint. Alors on va écouter tout de suite, pour bien comprendre la différence entre les deux, d'abord quelque chose, une écriture purement harmonique, vraiment une succession d'accords, tout simplement, et c'est quelque chose que vous connaissez. Alors les accords là, ils vont être arpégés pour que ce soit plus joli, mais c'est quand même une succession d'accords. C'est un exemple extrêmement connu, puisque c'est le premier prélude du clavier bien tempéré de Bach.
Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole.
Je vous arrête tout de suite. Cette chanson de Morane, certes, a du charme, mais quand même, c'est une imposture. Elle nous parle du prélude de Bach joué par Glenn Gould et on entend une interprétation qui est exactement le contraire de ce que fait Glenn Gould, avec beaucoup d'écho, beaucoup de réverbération, bref, tout ce que Glenn Gould détestait. On écoute vraiment Glenn Gould, donc cette fois-ci, dans le premier prélude de Bach.
Thank you.
Voilà, premier prélude de Bach, donc cette succession d'accords qui sont arpégés l'un après l'autre, mais une succession d'accords. On va écouter maintenant vraiment ce qu'est du contrepoint, donc une superposition de deux lignes mélodiques. C'est encore du Bach, ça va encore être Glenn Gould, c'est l'invention à deux voix, la cinquième invention à deux voix. Alors dans l'histoire de la musique, la polyphonie s'est d'abord développée par le contrepoint. Les accords sont arrivés finalement beaucoup plus tard. On a d'abord superposé différentes lignes mélodiques. De façon très caractéristique du Moyen-Âge, on partait en général d'un chant qui existait, un chant grégorien, un chant sacré, et sur ce chant, on en rajoutait un deuxième, voire un troisième, voire même un quatrième, etc. Mais chacune de ces lignes mélodiques avait quelque part sa propre autonomie. On va écouter un des premiers exemples de l'histoire de la musique, c'est une pièce d'un compositeur qui est d'ailleurs peut-être le premier compositeur qui a laissé son nom dans l'histoire de la musique. Il s'appelle Léonin, on est à la fin du XIIe siècle, on pense qu'il est mort vers 1190, et c'est donc un des premiers exemples de contrepoint qui nous est resté. Ça s'appelle Viderunt Omnes et c'est chanté par l'ensemble Tonus Peregrinus. Alors bien évidemment, le grand maître du contrepoint, ça va être Jean-Sébastien Bach, parce que le contrepoint va s'illustrer évidemment dans une forme particulière qui s'appelle la fugue, et Bach a composé un recueil qui est le recueil de référence sur la fugue, qui s'appelle l'art de la fugue, et chacune des pièces dans l'art de la fugue s'appelle contrepoint, donc il y a contrepoint 1, 2, 3, etc. Alors on va en écouter deux successivement. Une version un peu particulière, assez rare, parce que c'est Glenn Gould, encore lui, mais Glenn Gould en concert. Vous savez, Glenn Gould est un pianiste qui très tôt a arrêté sa carrière en concert, estimant finalement que les concerts étaient toujours imparfaits et que seul le disque pouvait donner une idée réelle de ce qu'était la musique. Mais voilà, il a quand même fait quelques concerts, et notamment des concerts tout à fait extraordinaires à Moscou, où il a joué des extraits de cet art de la fugue de Bach. On écoute donc successivement le contrepoint 4 et le contrepoint 2.
Thank you.
continue à décliner notre abécédaire, j'arrive, à cause de l'actualité, à Charles III. Comment vous dire, Charles III. Bon, d'accord, Charles, il a appris le violoncelle, ça ne suffit pas à me passionner, je ne vous le cache pas, les épisodes royaux d'Angleterre m'ont laissé relativement indifférent. En revanche, je dois vous le confesser, le God Save the Queen ou le God Save the King me semble un hymne national magnifique. Je trouve que c'est une musique bien plus réussie que celle de la Marseillaise, mais voilà, c'est une question de goût. Alors évidemment, je ne vais pas vous passer le God Save the King, ce serait superfétatoire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que Beethoven s'est intéressé au God Save the King et qu'il a écrit des variations là-dessus. Une pièce de jeunesse, d'ailleurs il n'y a même pas de numéro d'opus. Alors, des grands pianistes l'interprètent, hein. Brendel en a laissé une très très belle version. Cela dit, ça reste quand même encore un petit peu frustrant. Pour que ce soit intéressant, il faut aller encore plus loin avec une adaptation de ces variations de Beethoven sur le God Save the King. Adaptation qui a été faite par un contrebassiste américain qui s'appelle Edgar Meyer et qui a transformé ces variations pour piano en variations pour banjo et guitare. C'est donc ces variations pour banjo et guitare qu'on écoute, interprétées par Bela Fleck et John Williams. Thank you. La lettre C toujours et dans l'actualité toujours, c'est comme cinéma avec une bien triste nouvelle, la mort de Jean-Luc Godard. Alors je sais, Godard est un personnage un peu clivant, c'est quelqu'un d'un petit peu compliqué et il faut bien le dire, son parcours politique n'a pas toujours été très très éclairée. J'ai parfois bien de la peine à comprendre ses égarements maoïstes, par exemple.
La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis. L'ennemi ne périt pas de lui-même. Mao, Mao.
Après les égarements maoïstes des années 60, plus récemment, Godard a pris fait et cause pour la cause palestinienne. Là, il n'y a rien à redire, sauf qu'il a débordé un tout petit peu et que son antisionisme s'est parfois transformé en antisémitisme. Évidemment, ça gêne. Il n'empêche qu'il nous reste les films de Jean-Luc Godard. Et là, la magie opère. C'est une autre façon de raconter des histoires. C'est une autre façon de nous séduire. C'est une autre façon de nous parler. Tout de suite, générique. Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses ? Thank you. Vous avez bien sûr reconnu la musique du Mépris, un très beau film de Godard. Je me suis permis modestement de citer la réplique, convenu d'appeler ça une réplique culte, de Brigitte Bardot dans Le Mépris. Donc on a entendu deux thèmes, hein, le thème du générique et le thème de Camille. Magnifique musique de Georges Delerue, que Godard d'ailleurs n'aimait pas. Godard trouvait cette musique trop commerciale, trop facile, mais en même temps, elle a contribué beaucoup au succès du film Le Mépris. Godard savait s'adresser aux meilleurs compositeurs de son époque. Pour Pierrot le Fou, il demande à Antoine Duhamel de composer la musique, et là encore, ça nous a donné ce thème inoubliable. Voici donc le thème de Ferdinand, le thème du héros de Pierrot le Fou, d'Antoine Duhamel.
Thank you.
J'ai cité les films qui sont vraiment les débuts de la nouvelle vague, les années 60. D'un strict point de vue personnel, moi j'ai découvert Godard un peu plus tard, évidemment, c'est plus les années 80, avec des films comme Sauf qui peut la vie, Passion, Prénom Carmen, Je vous salue Marie. Prénom Carmen, voilà qui nous parle, c'est un C, et ça c'est bien puisque nous sommes à la lettre C dans notre abécédaire, et puis Carmen, c'est de la musique, donc quelque part ça nous interpelle. Je vous propose d'écouter un entretien c'est un entretien qui a été diffusé à la télévision suisse. Godard est avec sa compagne et scénariste Anne-Marie Miéville et le journaliste les interroge donc tous les deux sur Carmen d'une part et sur la place de la musique dans ce film de Godard où la musique est très très importante puisqu'il y a un quatuor qui est dans le film, qui est un des interprètes du film et qui travaille sur les quatuors de Beethoven.
Anne-Marie, comment vous expliquez que beaucoup de cinéastes, tout à coup, sont passionnés par le mythe de Carmen? Bon, il y a eu Peter Brook, il y a Saura, il y a Francesco Rosi, bon, maintenant Jean-Luc Godard. Quel est le mythe, finalement, que véhicule, à votre avis, Carmen? Est-ce que ce n'est pas, finalement, un mythe de lutte féministe?
Je crois qu'avant tout, il y a une raison matérielle bien précise, qui est que les droits ont été libérés et que ça permet au chant de s'emparer du sujet et de le traiter au cinéma. Et puis, à part ça, ben oui, c'est une histoire universelle. Enfin, il y a l'amour, il y a la mort, il y a tout. Et effectivement, il y a un personnage féminin qui n'est pas si d'arrière-garde que ça, enfin, qui est intéressant de ce point de vue-là.
T'as un personnage
intéressant. Ce qu'il y aurait de féminin, peut-être, c'est la musique et la musique, les vagues de la musique, donc la mer, et que parmi les personnages très connus, c'est le seul qui, et c'est ce qui m'intéressait aussi, qui n'existe pas sans la musique. Hamlet, Antigone, Oedipe, tout cela existe sans, Guillaume Tell existe sans la musique, mais Carmen n'existe pas sans musique. Et c'est une femme, c'est pas un homme. Peut-être les hommes peuvent exister sans musique, les femmes ne peuvent pas exister sans musique. Et je crois que c'est la force et l'originalité de Carmen, c'est ce dont je me suis, c'est mon opinion.
Et la musique justement, la musique, Bizet excite, et on retrouve,
Non, Bizet n'excite pas du tout, je veux dire... ça a déjà été parfaitement fait par Bizet, dont on peut rappeler que lorsqu'il l'a fait, ça a été un vrai four. Il a fallu une cinquantaine d'années pour que Carmen obtienne du succès, qu'au début c'était un désastre, ce qui a probablement hâté la mort de Bizet, et que moi j'ai pris une musique, si vous voulez, d'avant un peu Bizet, et que je cherchais, d'où le titre, aussi prénom, plutôt que le nom, parce que c'est un prénom, et quelque chose qui vous appelle, la musique vous appelle sans nom, donc on dit à un moment dans le film, Carmen dit, je voudrais bien savoir, avant mon nom, qu'est-ce qui m'appelle, ou comment je m'appelle, et donc j'ai pris une musique qui était avant, et aujourd'hui je me dis, je serais content si... Quand on me dit « mais Bizet serait horrifié », je pense pas. Je pense que s'il voyait ce film et qu'il avait oublié qu'il avait fait Carmen, ça lui donnerait envie de faire autre chose qui serait la vraie Carmen aussi. Mais c'est aussi cette ambition-là, de faire un film qui donnerait à l'idée de faire le scénario de Carmen, si on peut dire. D'où l'importance, effectivement, du travail de scénario, de la continuité, fait d'une autre manière, chercher à raconter ça aussi, sous une forme un peu plus... classique que dans d'autres films.
Alors, mais justement, Anne-Marie, c'est à vous que la question s'adresse. Jean-Luc déclare que finalement, c'est Beethoven qui a remplacé Bizet, la musique, et Jean-Luc dit, c'est un souvenir, je crois, de jeunesse au bord de l'océan, j'ai remplacé une musique méditerranéenne.
J'ai pris une musique qui m'avait appelé à un moment donné. Ouais.
Voilà, je crois que c'est juste. Alors, vous en avez parlé pas de ce problème, mais de cette option, par exemple, musicale, Anne-Marie.
Anne-Marie a beaucoup de mal à se mettre...
Non, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre au quatuor. Pendant que moi, je faisais ce travail comme ça, de revisitation du sujet de Carmen, lui, de l'autre côté, dans l'appartement d'à côté, écoutait ses quatuors. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal à me faire à ses quatuors. J'avais l'impression d'écouter de la musique jouée par des crustacés. J'ai eu beaucoup de mal à me, petit à petit à me faire à cette musique.
On va rester avec Carmen, mais en tournant quand même la page de notre dictionnaire de musique pour arriver à la page de la contrebasse. La contrebasse, vous savez, c'est cet énorme instrument à cordes, un très très gros violoncelle. La contrebasse, elle a une place essentielle à l'orchestre, elle a une place relativement plus modeste comme instrument soliste, et pourtant, ses capacités sont importantes. On va en entendre un exemple tout de suite dans des variations sur Carmen. Elles sont interprétées au piano par Shu Yun Sung et à la contrebasse par Sung Min Jae.
Thank you.
Nous allons terminer ce Tutti Quanti un peu comme nous l'avions commencé, avec du Bach et en restant avec la contrebasse. On va écouter une transcription de la Sinfonia, de la cantate WV 156, une cantate qui date de 1729, mais une transcription ici pour ensemble de contrebasse. Ce sont tous les contrebassistes de l'orchestre de Saint-Pétersbourg qui se réunissent et qui vous jouent cette Sinfonia de Bach.
Thank you.
Il y avait encore énormément de choses à vous dire sur la lettre C en musique, alors je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, dans 15 jours pour continuer à explorer tout ça. D'ici là, portez-vous bien.
Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tourner.